François Churet, voilà, nous explique bien que l'homme, ce qui est à la base même de penser l'urbanisme, c'est bien l'utopie. Et l'utopie, c'est bien l'idée de produire une ville dans laquelle il n'y aurait plus de conflits. Plus de conflits sociaux, plus de conflits politiques, voilà. Deuxième chose, c'est si je me replace dans une perspective historique et si je prends les objets que j'ai été amené à étudier, notamment les politiques de régénération urbaine, enfin, contemporaine ou celle des années 60, politique de rénovation urbaine, voilà. Désolé, mais il me semble qu'on assistait dans les années 60, en tout cas en France, mais ça vaut aussi en Angleterre, peut-être aux États-Unis, ce que je peux connaître, on assistait ben, finalement à des choses qui sont très très comparables dans les modalités de dépolitisation de ces interventions, ou en tout cas de mise en place de dispositifs visant à marginaliser, à contenir les formes d'opposition les plus radicales, la construction de métadiscours essayant de mettre en compatibilité la question sociale avec les logiques marchandes de la production urbaine, les discours post-classistes, à une époque la vie des classes avait un sens, voilà, un grand ensemble, c'est discours des grands ensembles, discours post-classistes. Et alors, certes, il y avait des à l'époque, et le cas de la centrale nucléaire là, montre, il y avait dans les années 60, les années 70, aussi des objets, la politique d'aménagement qui faisait l'objet de conflits hyper politisés. Finalement, c'est exactement comme aujourd'hui, là encore. Moi, je suis vaguement nantais, Notre-Dame. Quelle différence entre Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui et le cas de la contestation des centrales nucléaires que tu nous présentais tout à l'heure. Voilà, donc moi il me semble que la comparaison diachronique nous amène peut-être à relativiser l'impression qu'il y aurait quelque chose de radicalement nouveau là, avec le développement durable qui viendrait empêcher toute contestation des politiques urbaines. Voilà, j'ai un peu l'impression que c'est une sorte de continuum enfin, historique des politiques urbaines. Peut-être, en tout cas, par la comparaison, essayer d'identifier plus finement ce que ça produit, du point de vue-là. Tu montres des formes de déplacement qui me semblent avoir. Deuxième point qui m'avait frappé, c'était cette question de finir. Bon, qu'est-ce qu'il y a de si... Quelle est la spécificité de ce mode des politiques urbaines durables? Qu'est-ce que la durabilité... Comment est-ce que ça nous amène à... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique, hein? Moi, il me semble que les critiques, notamment celle de la géographie critique, la sociologie critique, l'urbaine critique, adressée aux politiques de développement durable, elles valent, on peut se retirer le mot durable et le mot urbain. Et c'est des critiques qu'on peut transposer à l'ensemble des politiques publiques. Enfin, en tout cas, à un grand nombre de politiques. Sur cette dimension notamment de dépolitisation, sur cette dimension de mise à l'écart des groupes contestataires, de mise à l'écart des au nom du post-classique, mise à l'écart des pauvres, de relégation des populations. Alors Samuel nous a pas fait sa partie la partie théorique qui était en chapeau de son texte, mais les discours de Rancière, les analyses de Rancière ou de Swinburne ou de ce qu'on veut, ces analyses qui marchent aussi bien pour les politiques de surveillance d'Internet que pour les politiques d'aménagement d'éco-quartier. Ça marche aussi bien pour les politiques, pour les dynamiques de régénération urbaine des quartiers centraux que pour les politiques publiques de démolition des grands centres. Ces critiques, d'une certaine façon, elles peuvent s'appliquer partout, qu'on soit dans des objets qui mobilisent la question du développement durable ou non. C'est troublant. Alors, est-ce que finalement, toutes les critiques que vous avez assises, est-ce qu'il faut vraiment les imputer à le développement durable ? Il faut les imputer à autre chose. Et je trouve que c'est d'autant plus troublant, et alors c'est là que je trouve que finalement, le développement, a priori, moi, tel que j'avais compris le développement durable, le mot d'ordre de durabilité, ce mot d'ordre, l'invocation de ce mot d'ordre, devrait marquer une rupture radicale dans les politiques urbaines. Parce que c'est au fondement du développement durable, en tout cas, développement durable pour les nuls, tel que je l'ai compris, c'est quand même une volonté de désectorisation de toutes les politiques publiques. Or, si on se rappelle quand même quelles étaient les analyses qui pouvaient être faites des politiques publiques il y a quelques années, il y a 40 ans, notamment aux merveilleux travaux d'Arendorf au début des années 70, qu'est-ce qu'il nous disait ? Il nous disait que la segmentation, le cloisonnement sectoriel avait été inventé dans les sociétés industrielles, et on avait structuré l'État de cette façon dans le XXe siècle, pour, comme une manière de répondre à la conflictualité sociale. Segmenter les problèmes, c'était une réponse au risque d'instabilité sociale de la société industrielle. On essayait, en segmentant les problèmes, d'opposer aux antagonismes capital-travail et aux conflits sociaux qui étaient associés une série de problèmes techniques pouvant faire l'objet de solutions techniques, rationnelles. On multipliait les barrières étanches entre tous ces problèmes isolés les uns des autres. Et donc, cette sectorisation, ce cloisonnement sectoriel, participait de la dépolitisation et de la réduction de la conflictualité sociale et sa traduction dans la sphère politique. Ça permettait la collaboration. Quelque chose d'assez bizarre quand on y pense. Le développement durable, qui serait une remise en cause de ce principe de sectorisation, aboutirait à quoi ? À la dépolitisation et déconflictualisation. Voilà, alors, je ne sais pas quel fil tirer à tout ça, mais je trouve qu'il y a un vrai paradoxe là. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement le développement durable ne serait pas du développement durable ? Et c'est vrai qu'en vous entendant, finalement, j'ai l'impression, et souvent quand j'entends parler de développement durable, on ne parle pas véritablement de développement durable, on parle d'une série d'objets, de préfets, et plus que de qui sont rabattus sur des objets très très sectoriels, dans lesquels on va claquer un discours durable. Je ne sais pas comment aller plus loin là-dessus, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose. Dernier point, parce que j'ai déjà été sur la question du... sur la question scalaire. J'entends le fait que dans les politiques urbaines ou à l'échelle des villes, l'invocation du développement durable, de la durabilité permet de légitimer certaines élites urbaines, permet de dépolitiser un certain nombre de débats. Et en même temps, tu montres bien, si on regarde à l'échelle métropolitaine, peut-être un peu plus compliqué. Et moi, j'ai envie de prolonger là, ce changement d'échelle en posant d'autres échelles, ou plutôt en posant la question à d'autres échelles et l'articulation interscalaire entre des échelles. On invoque le développement durable dans un projet à l'échelle d'une ville, ça participe à des formes de neutralisation du débat public, ça met une charte de plomb morale sur les choses, ça permet de filtrer les acteurs, ouais, ça permet de faire de l'hégémonie culturelle, comme on disait à une certaine époque. Ouais, très bien, ok. Et on a tous, dans nos terrains, on a pu voir ça. Ouais, et en même temps, si on change d'échelle de l'urbain à l'échelle métropolitaine, on va dire, on voit que c'est plus compliqué. Alors, tu nous en as présenté un exemple. Ce qu'on voit à Nantes est passionnant. Puis Nantes, capitale verte de l'Europe 2013, The Green City, à l'état pur, très bien. Et effectivement, quand on regarde les projets construits à l'intérieur, tous les projets nantais, tous les projets de l'agglo nantais, de la métropole au sens institutionnel, d'agglomération, c'est plus contesté nulle part. Ceux qui avaient contesté sont aujourd'hui au cœur du pouvoir municipal ou d'agglomération. Oui, sauf que dès qu'on sort de cette échelle politique pour regarder pas tellement plus loin, jusqu'à Notre-Dame-des-Landes, on se rend compte que la population, elle est énorme. Et on se rend compte surtout que tout ce discours, greenwashing, dirait certains, Nantes capitale verte, on est les plus verts, etc., c'est aussi une ressource pour les contestataires. C'est aussi une ressource qui est mobilisée par les opposants à Notre-Dame-des-Landes qui disent vous voulez construire un aéroport et vous prétendez être la capitale verte, vous prétendez faire ça, et en même temps vous voulez construire cet aéroport qui va tuer des coins de coin et des je sais pas quoi. Donc il me semble que ce diagnostic de la dépolitisation, de la neutralisation, de l'hégémonie culturelle mérite d'être nuancé par un regard à d'autres échelles. Et puis si je change encore d'échelle, et si je pose la question de la légitimation, poser la question de la légitimation par le développement durable, on peut aussi la poser en termes interscalaires, en termes notamment de légitimation entre les villes, les élites urbaines, d'un côté, et les échelles politiques supra-régionales, nationales et européennes. De ce point de vue-là, le cas de Freiburg est intéressant, mais moi je fais parallèle avec Nantes, et on peut le faire parallèle avec bien d'autres. On se rend compte que les politiques nationales européennes de développement urbain durable sont de manière systématique des politiques qui sont indexées sur la promotion de villes modèles, de bonnes pratiques, de référentiels, et qui mobilisent énormément des instruments comme les labels, les prix. Or, ce qui se joue là-dedans, moi, il me semble, c'est un processus de légitimation croisée, tout comme le concept de Grémion. D'un côté, l'État, l'Europe viennent légitimer certaines élites, certaines villes et les élites qui vont derrière. Hein, on peut dire à Fribourg qu'on est modèle. La preuve, on a été reconnu par l'État fédéral, par je ne sais qui, par... Et ça peut être mobilisé localement par ces élites. Regardez! Comment pouvons-nous être contestés, puisque dans nos politiques de verdissement, regardez, on est reconnu au niveau national, au niveau. Et réciproquement, pour l'État, pour l'Union européenne, la mise en avant de ces cas exemplaires peut être un instrument de légitimation de leur propre politique. Donc je pense qu'il y a un jeu qu'il faut analyser de manière verticale, s'agissant de la légitimation des politiques. Et puis, dernier point, alors qui est peut-être le plus hasardeux, mais avec violence, et je finirai là. Moi, il me semble que, finalement, derrière les questions de développement durable, on oublie, les courants critiques des sciences sociales passent leur temps à nous dire c'est dépolitisant, il n'y a plus de débat public, il n'y a plus d'espace public. Moi, j'ai envie de me dire, peut-être que vous pourriez dire exactement la même. Parce qu'on ne regarde plus à la bonne échelle. Vous êtes finalement enquisté dans des échelles urbaines et nationales. Vous avez raté ce qui est absolument merveilleux derrière le développement durable, c'est-à-dire l'émergence de la constitution d'un espace public global. Il me semble, et alors je n'ai pas suivi ça, moi je lis des journaux comme vous, que ce qui s'est joué notamment autour de Kyoto, la renégociation du protocole, quand bien même, bon, c'est un échec. C'était un échec. Mais d'un seul coup, on a vu émerger un vrai espace public global où ont été posées des questions qui ne pouvaient pas être traitées jusqu'à présent. Celle notamment de la responsabilité historique des pays du Nord dans les problèmes écologiques globaux. L'interpellation d'un certain nombre de, alors, non seulement d'États du Sud, de pays émergents, mais aussi de mouvements sociaux à l'égard de la responsabilité des États-Unis de l'Europe. Elle a eu un écho dans ce qui me semble être quand même l'amorce de la constitution d'un espace public qui n'existait pas. Et de ce point de vue-là, peut-être qu'on a enfin, autour du développement durable, l'amorce d'une forme de politisation sur ce qui peuvent être des questions politiques. Enfin, c'est pas pour les plus radicaux qui pourraient le contester, hein. Celle, effectivement, de la responsabilité historique des pays dominants du Nord, historiquement dominants du Nord, sur les pays du Sud et des troubles de la planète. Voilà. Peut-être juste un ultime point pour parce que quand même si je pense que tu peux te rapprocher à ce que tu dis, un point c'était quand même plus je partais plutôt peut-être un point un truc qui m'a assez frappé là, en t'écoutant et en mettant en rapport avec l'intervention d'Hélène ce matin. Vous avez pas mal mobilisé le même territoire. Métropole marseillaise. Vous remobilisez alors de manière à la fois dans vos deux contributions, mais j'allais pas dire une analyse foucaldienne, mais un vocabulaire foucaldien, sauf que c'est pas le même Foucault, c'est le Foucault du biopouvoir, quand même chez toi, c'est le Foucault de la gouvernementalité chez elle, et vous vous attachez pas aux mêmes espaces. Hélène nous parle finalement beaucoup du centre, toi tu nous parles de la périphérie, où on voit comment il y aura une sorte de truc un peu bizarre, c'est le Foucault de la gouvernementalité pour le centre, et c'est le Foucault du biopouvoir pour la périphérie. Je me dis qu'il y a une piste, j'arrive pas, il y a un truc que je trouve assez frappant derrière ça, assez marrant en vous entendant, et pas construit, mais surtout, je me disais, mais merde, ce que vous nous décrivez là sur est-ce que finalement ça vaut que pour Marseille avec il y a des marseillologues dans la salle. Est-ce que les spécificités territoriales, politiques, socio-spatiales de Marseille sont telles que finalement c'est une grille de lecture qui est purement contingente, ce sont des grilles de lecture auxquelles il y a une grille purement contingente, mais est-ce que ça finalement ça, c'est transposable, d'autres plans d'analyse sont transposables à d'autres territoires, d'autres métropoles, je ne sais pas si cette question a quelconque sens.
Merci Renaud.